Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et cette question ce soir, le président sénégalais Macky Sall qui s'est engagé à créer 65 000 emplois en faveur des jeunes d'ici mai prochain, a-t-il les moyens de tenir ses promesses? Nous en débattons dans un instant et dans l'immédiat, voici votre invité, Décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Olivier Puemi, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes conseiller régional de l'UNESCO pour l'EFTP. En Afrique, l'EFPT étant l'enseignement et la formation technique et professionnelle, l'UNESCO a lancé récemment à Dakar l'initiative panafricaine pour la transformation digitale de l'EFTP et des systèmes de développement des compétences en Afrique. Comment ce projet va-t-il être mis en œuvre et quel en est l'enjeu?
En fait, l'initiative a déjà comme objectif d'aider les États et les pays africains à pouvoir disposer de l'écosystème qui va favoriser l'accélération et la transformation digitale de leur système d'enseignement technique et formation professionnelle. Le premier but, c'est de fédérer l'ensemble des partenaires qui accompagnent les États à pouvoir travailler autour d'un certain nombre de cibles bien définies. Et nous avons retenu 10 cibles. La deuxième démarche, c'est de pousser les États à pouvoir à prendre le leadership justement dans cette accélération et nous envisageons justement de mettre sur pied ou d'appuyer les États à mettre sur pied des coalitions nationales pour l'accélération de la transformation digitale de l'EFTP en Afrique. Et donc c'est à travers cette coalition pilotée par les gouvernements, par les ministères en charge de l'EFTP que nous allons travailler à implémenter un certain nombre d'activités que nous allons élaborer dans un plan d'action conjoint.
Et quelles sont les cibles dont vous parlez?
Globalement, nous avons 10 cibles et je vais regrouper peut-être en 3-4 champs. Et nous allons travailler à ce que les États disposent de masses critiques, de leaders, de praticiens et de jeunes qui maîtrisent les compétences digitales qui vont leur permettre justement de s'insérer dans ce monde de plus en plus digitalisé. Nous allons travailler aussi à faire de telle sorte que les acteurs du secteur informel disposent des compétences digitales qui vont favoriser ce que nous appelons la transition vers les emplois, ce qui va favoriser le renforcement de la productivité de ces acteurs, et ce qui va favoriser aussi la mobilité de ces acteurs sur le marché du travail. En troisième lieu aussi, nous allons aider, accompagner ces États à disposer des centres d'excellence pour la transformation digitale de l'EFTP dans les pays. Ces centres seront un peu comme des centres de bonnes pratiques où les autres centres pourront s'abreuver et pouvoir apprendre, et seront aussi en mesure d'apprendre des bonnes pratiques.
Oui, il est urgent de repenser et d'adapter l'EFTP, l'enseignement et la formation technique et professionnelle, aux exigences actuelles du marché du travail. Mais est-ce que les responsables et acteurs éducatifs africains comprennent cet enjeu? Autrement dit, est-ce que les contenus offerts aujourd'hui aux élèves de l'EFTP sont corrigés et adaptés à cette exigence?
Et là, c'est une très bonne question, madame. Et le préalable, en réalité, pour y aller, c'est d'abord cet aspect. Et nous avons cette chance parce qu'en 2020, nous avons commencé la conception de l'initiative en 2020. La première activité a été d'abord de faire une petite enquête auprès des autorités, auprès des leaders de nos États, pour nous assurer justement que ces autorités sont au courant et sont informées de l'urgence, effectivement, d'y aller. Et suite à ces focus group et ces enquêtes, nous nous sommes rendus compte justement que ces acteurs, la plupart des ministres de ces États étaient au courant, étaient informés et savaient qu'il était urgent d'y aller. Et donc, c'est justement à partir de cette enquête que nous avons compris la nécessité de mettre sur pied l'initiative. Une autre chose qui nous a motivés justement dans cette lancée, c'est que lors du lancement de l'initiative en début mars dernier, nous avons eu un certain nombre d'autorités qui sont pour nous les ministres champions, les ministres qui portent l'initiative. Et donc, cet engagement au niveau politique nous a réconfortés dans cette perspective d'accompagner les États à cette transformation digitale. Donc, pour nous, la première condition, comme vous avez dit, c'est déjà ce leadership politique que nous avons actuellement dans le cadre de cette initiative. La deuxième chose aussi, vous avez dit, c'est que nos États sont conscients qu'il est important d'adapter nos offres par rapport aux besoins de l'économie. Et aujourd'hui, l'économie est de plus en plus digitalisée. Et si nous voulons effectivement répondre à ces besoins, si nous voulons assurer l'adéquation entre l'offre et la demande du marché du travail, il est important d'y aller. Effectivement, c'est l'heure. Et la COVID-19 a été l'occasion justement déclencheur.
Il y a une volonté exprimée à travers l'initiative panafricaine dont vous parlez. On sait que dans beaucoup d'établissements scolaires ou d'établissements secondaires dans de nombreux pays africains, il n'y a pas d'ordinateur. et il n'y a même pas d'électricité.
Nous, lorsque nous avons débuté les réflexions en 2020 sur l'initiative, c'est ce qui ressortait le plus souvent dans les échanges, c'était « non, nous n'avons pas Internet, non, nous n'avons pas les équipements, non, nous sommes encore en retard, ce n'est pas encore l'heure ». Et en fait, ce que nous savons, et c'est ce que nous aimons souvent dire aux États, c'est que tous les pays qui se développent doivent d'abord avoir une vision moyen long terme. Et la crise sanitaire, ce que nous avons constaté en tant que partenaire, c'est que nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de solutions de court terme. La plupart des appuis aux États, c'était des formations, des webinaires, des formations courtes en ligne. Mais nous considérons ces aspects, ces solutions comme des solutions de court terme et on ne peut pas se développer avec des solutions de court terme. Et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer une initiative avec une vision de moins long terme.
Est-ce que le chemin ne semble pas très long pour arriver justement à offrir aux jeunes Africains des compétences pointues qui leur permettent d'être compétitifs face à leurs camarades des autres régions du monde?
Dans un monde de plus en plus digitalisé, il est très facile de pouvoir s'arrimer, de se mettre au même standard que les pays occidentaux. Il y a de plus en plus d'innovation dans les pays africains que dans la majorité des pays développés. Donc aujourd'hui, nous sommes presque conscients que pour pouvoir effectivement réduire le gap que nous avons dans les autres domaines de l'économie, le digital sera le moyen pour nous d'accélérer effectivement cette réduction du gap. Et donc pour nous, nous ne considérons pas que le chemin est long, nous considérons plutôt que le digital, c'est plutôt une opportunité pour nous de combler ce gap.
Docteur Olivier Pemi, merci beaucoup.
Merci madame.
Conseiller régional UNESCO pour l'EFTP en Afrique, l'enseignement et la formation technique et professionnelle.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous allons à présent retrouver nos invités pour parler de la promesse faite par le président sénégalais Macky Sall, qui s'est engagé à recruter 65 000 jeunes d'ici le mois prochain. A-t-il les moyens d'honorer ses engagements? 4 invités pour en parler ce soir. Demba Moussa Dembélé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être avec nous, Monsieur Dembélé. Vous êtes économiste, chercheur et président d'ARCAD. C'est l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène. Bienvenue, Cheikh Oumar Sy. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Président de l'Observatoire du suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, OCDEA. Vous êtes également coordonnateur de la plateforme Djami Réumi. Cela signifie la paix pour le Sénégal. Nous te retrouvons également à Dakar, Farah Ndiaye. Bonsoir, Monsieur Ndiaye. Pardon, Monsieur Ndiaye, vous êtes avec nous?
Oui, bonsoir, je suis avec vous.
Directeur exécutif de Jeunesse Espoir au Sénégal, à Dakar. Et Pape Dibril Fall, bonsoir. Pas encore, me fait-on signe, analyste politique, que nous retrouverons dans un instant. Et nous allons donc commencer avec peut-être le représentant des jeunes, hein, M. Farah Ndiaye. Macky Sall a donc promis à la veille de la fête nationale de nouvelles réponses à vous, la jeunesse. Il a fait une série d'annonces, dont le recrutement d'ici le mois de mai prochain de 65 000 jeunes Sénégalais. Est-ce que vous diriez que son discours était très offensif et allait-il dans le sens que vous espériez?
Allô,
allô, monsieur Ndiaye, vous m'entendez?
Allô, je vous entends bien.
Oui, est-ce que vous avez suivi ma question, allez-y.
Non.
Est-ce que vous diriez que le discours de... Est-ce que vous diriez, s'il vous plaît, mettez-vous à l'abri du bruit, on compte sur vous, pour être bien entendu. Oui. Donc, est-ce que vous diriez que le discours de Macky Sall était un discours offensif et est-il allé dans le sens que la jeunesse sénégalaise attendait?
Oui, là, nous pouvons dire que c'est un discours donc, qui révèle beaucoup de promesses. Donc, pour la jeunesse sénégalaise, qui sans doute aujourd'hui est confrontée à de nombreuses difficultés liées à l'emploi et à l'employabilité. Donc, on voit que c'est une suite logique, donc des manifestations, donc par rapport à laquelle le président s'est revenu, donc avec d'autres chiffres, donc beaucoup plus importantes et d'autres actions, donc envers la jeunesse sénégalaise. Donc, on peut dire que on va qualifier un peu ou juger donc cet discours, donc qui révèle beaucoup de promesses donc envers la jeunesse sénégalaise qu'ils disent qu'ils les accomplissent.
D'accord. Donc vous êtes satisfait et vous espérez que les promesses seront réalisées?
Nous espérons que les promesses seront réalisées parce que il y a pas mal de promesses qui ont été faites. Maintenant aujourd'hui il y a une sorte d'écart concernant donc ce qui est donc les promesses, mais aussi pour la matérialisation donc de ces promesses sur le terrain. Donc il y a ça aussi quoi, parce que durant les élections il y avait pas mal de promesses qui ont été faites, mais qui aujourd'hui le président donc si on peut dire entre guillemets donc a reconnu comment dire il y a des échecs donc des différentes politiques qu'il avait mis en place. Donc on peut dire que il avait mis en place pas mal de panoplies de projets et de programmes qui étaient destinés à accompagner les jeunes, mais qui sans doute n'est pas du tout efficace. Parce que nous voyons.
D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure, hein, monsieur Ndiaye, rassurez-vous, le temps de faire un tour de table. Monsieur Cheikh Oumar Sy, ce discours, d'après vous, était-il en phase avec le contexte qui est celui que nous connaissons, la vague de protestation observée en mars dernier dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko?
Oui, vous savez, la situation qui a été générée avec l'histoire d'Ousmane Sonko a fait ressortir plus ou moins d'autres mots qui sous-tendaient plus ou moins la tension politique, sociale et économique du pays. Aujourd'hui, la pandémie avec le couvre-feu avait créé une situation pour beaucoup de familles qui travaillaient quasiment la nuit. Et là, étant donné aussi que le gouvernement avait dégagé pour la première vague une enveloppe de 1 000 milliards, la deuxième vague, le gouvernement n'a absolument rien donné. Donc les situations étaient très compliquées pour les familles. Le couvre-feu a fait vraiment quasiment quadrupler les difficultés. Et étant donné qu'il y avait toutes ces conditions-là, il fallait s'attendre à cette explosion. Maintenant, le président de la République, après les manifestations, a pris de nouveaux engagements qui viennent s'ajouter aux autres engagements qu'il avait pris lors de sa campagne. On se souvient que quand il a débuté son mandat, il avait parlé de 500 000 emplois. Il y a un meeting où il avait même parlé de 1 million d'emplois. Il n'y a pas encore réellement de traçabilité en termes de création d'emplois depuis son régime qu'il est là. Il y a des chiffres. On ne sait pas si ce sont des emplois temporaires ou non. Mais ce qu'on a constaté et ce qui est réel, c'est que la jeunesse a faim de trouver de l'emploi. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de financements et de milliards à travers la DER, l'IMPEJ, le FONGIP. Et la plupart aujourd'hui des jeunes se demandent où sont allés ces financements-là. Et si le président prend un engagement de dire que le mois de mai, il va créer 65 000 emplois avec une enveloppe de 80 milliards, il faudra nécessairement, les gens s'interrogent, comment ça va se faire, sur quel mécanisme il va s'appuyer.
Justement.
Et comment nécessairement la mise en œuvre va être réalisée.
C'est très bien, monsieur Sy, parce que vous me permettez de donner la parole à monsieur Dembélé, qui est économiste. Mais peut-être avant d'aller sur la question que vous venez de relever, comment va-t-il s'y prendre pour mettre en œuvre toutes ces promesses? Je voudrais peut-être déjà, monsieur Dembélé, que vous nous disiez, est-ce que vous pensez qu'avec ces promesses, Macky Sall a peut-être, même si on est encore en phase des promesses, regagner le cœur des Sénégalais? Est-ce qu'il a reconquis la confiance de ses compatriotes, notamment les jeunes qui seront les bénéficiaires de ces annonces? Monsieur Dembélé?
Merci beaucoup. Allô?
Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Vous m'entendez?
Oui. Est-ce qu'il a regagné un tout petit peu, avec ses annonces, le cœur des Sénégalais?
Écoutez, moi je suis sceptique, hein, parce que nous sommes dans un contexte très difficile, et je crois que toutes les annonces qui ont été faites par le président, c'est pas en réponse aux manifestations de la jeunesse, et, aux manifestations du début du mois de mars, manifestations qui ont entraîné la mort d'au moins une quinzaine de jeunes, de plus âgés avec 35 ans. C'est pour vous dire, donc, ça a secoué le régime, ça a secoué profondément le président Macky Sall, qui ne s'attendait pas à ça. Mais je crois que c'est donc une réponse, mais est-ce que la réponse est une réponse dans l'urgence, le dos au mur? Je crois que c'est ça. Puisque le vrai problème du Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de stratégie cohérente pour tacler, prendre en charge l'emploi de façon générale et l'emploi des jeunes en particulier. Tout à l'heure, celui qui m'a précédé a bien raison de dire que le président avait promis 500 000 emplois dans son premier mandat. 7 ans, lui-même, il dit qu'il n'a pas réussi à créer 500 000 emplois, mais il en a créé 491 000. Ce qui veut dire 70 000 emplois par an sur 7 ans. Alors, et ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir. Il n'a pas réussi à créer assez d'emplois dans un contexte qui était beaucoup plus favorable, puisque sur le plan politique, il avait, comme on dit, le bénéfice du doute pendant, en tout cas, son premier mandat. Il avait des taux de croissance de 6,5% d'après son gouvernement, de 6,5% voire 7%. Et pendant cette période, il n'a pas pu créer.
Ce qui passera à moins de 3%, lui-même, il a déclaré dans son discours.
Non, je parle des 9 ans.
Oui, vous disiez le contexte est favorable, avec un meilleur taux de croissance qu'il ne l'est aujourd'hui. Et je précise juste que lui-même, il a reconnu que la croissance qui était soutenue sur plusieurs années a été brutalement freinée et passera de moins 3% avec la COVID.
Voilà. Et donc, dans ce nouveau contexte défavorable, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique, sur le plan national et sur le plan international, pour ce qui concerne l'économie, je ne vois pas comment on peut régler toutes ces promesses qui ont été faites. Moi, je suis sceptique et je ne pense pas, et beaucoup de jeunes, j'en suis sûr, sont très sceptiques par rapport à ces annonces.
Oui, ma question, vous êtes sceptique, vous allez nous dire pourquoi. Tout à l'heure, vous avez commencé à parler du taux de croissance qui n'est plus favorable aujourd'hui, comme ce fut le cas dans son premier mandat. Mais au moins, avec ces promesses, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quand même certains Sénégalais qui se disent que oui, le président, même s'il n'a pas encore mis en œuvre ses promesses, a peut-être, au niveau des déclarations, tenté de redonner confiance aux Sénégalais et de reconquérir cette confiance?
Mais ce n'est pas la première fois que ce genre de promesses étaient faites. Hein. Par exemple, en 2019, avant la campagne présidentielle, il avait fait des promesses de ce genre-là. Il avait même créé la direction de l'emploi, je crois, de l'emploi rapide, quelque chose comme ça, la DER, dotée de 30 milliards, et les gens applaudissaient. Et finalement, tout le monde se demande où est passé l'argent. Parce que c'est ça le vrai problème. On fait des promesses, peut-être de bonne foi, mais après, les gens se demandent où est passé l'argent. Parce que ceux à qui cet argent est destiné disent qu'ils n'en ont pas vu, ou ceux qu'ils en ont vu étaient très peu. Donc voilà la vraie question. Et tout le monde se dit, peut-être que le président a fait de bonnes promesses, c'est vrai. D'abord, on se demande d'où va venir l'argent, puisque c'est des réaffectations budgétaires, ce qui veut dire que certains secteurs seront pénalisés, nécessairement. Et donc, d'où va venir l'argent? Et ensuite, est-ce que cette fois-ci, on va l'employer à bon escient? Voilà les questions que les gens se posent.
Merci beaucoup, Monsieur Dembélé. Et justement, on va venir dans un instant dire un mot sur, parler plutôt de l'état des finances publiques du Sénégal, parce que tout ce projet que le président a annoncé va devoir être financé. Est-ce que l'état du Sénégal a les moyens aujourd'hui de supporter cette enveloppe qui sera destinée au recrutement des jeunes notamment? Nous en parlons dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Création d'ici le mois prochain de 65 000 postes pour les jeunes Sénégalais. C'est la promesse faite par le président Macky Sall samedi dernier dans un discours télévisé à l'occasion du 61e anniversaire de la fête d'indépendance du Sénégal. Aura-t-il les moyens de tenir ses engagements? Nous en débattons ce soir avec Cheikh Oumar Sy, président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, OCDEA, Demba Moussa Dembélé, économiste, chercheur et président d'ARCAD, africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène, et enfin Farah Ndiaye, directeur exécutif de Jeunesse Espoir au Sénégal. Monsieur Ndiaye, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Oh, oui, vous avez exprimé des doutes hein, et d'autres aussi des inquiétudes quant à la capacité du président sénégalais de tenir ses engagements. Est-ce que malgré tout, vous avez un état d'esprit de confiance? Est-ce que vous êtes optimiste? Vous dites peut-être cette fois, il pourrait y arriver?
Oui, là, parce que là, nous pouvons dire que... Allô?
Oui, on vous entend.
Vous m'entendez?
Oui, M. Ndiaye, allez-y.
Vous m'entendez? Parce que là, nous pouvons dire que parce que c'est à l'approche des élections, donc espérons que ces milliards qui sont promis aux jeunes donc, soient mis à la disposition de la jeunesse. Mais le problème qui se trouve à ce niveau, c'est qu'on va aussi impacter d'autres secteurs. Donc, par rapport à cela, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que l'État du Sénégal a moyen pour employer un peu les jeunes, c'est la fonction publique. Et la fonction publique ne peut pas prendre tous les jeunes qui sont aujourd'hui demandeurs d'emploi. Parce que chaque année, nous agissons sur le marché de l'emploi, plus de 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi, alors que l'offre n'est que de 30 000. Donc, vous voyez cette gap donc, immense. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse mieux accompagner les jeunes et travailler aussi, dans le domaine de l'employabilité des jeunes pour harmoniser ou asseoir une bonne politique de formation, pour que les formations qui sont destinées aux jeunes soient adéquates par rapport aux demandes du marché de l'emploi. Donc c'est comme cela. Là, on a entendu que le président donc va recruter plus de 5 000 enseignants ou entre autres. Aujourd'hui, tous les jeunes ne peuvent pas être derrière les bureaux. Ce qu'on doit faire, c'est de mieux accompagner le secteur privé afin que le secteur privé puisse jouer pleinement son rôle et sa partition donc pour qu'on puisse mieux employer les jeunes, tout en réglant davantage, dans un premier temps, les questions liées à l'employabilité des jeunes. Parce qu'il y a une forte inadéquation entre l'offre de formation et ce qu'on appelle ce que le marché de l'emploi.
Oui, mais il a promis, M. Ndiaye, il a promis d'installer dans les 45 départements du Sénégal ce qu'on appelle un guichet unique pour recueillir les curriculum vitae et accueillir les jeunes pour les aider à l'insertion socio-économique. Donc, il ne s'agit pas de recruter tout le monde dans la fonction publique.
Mais là, de ce point de vue, c'est que les guichets uniques, on a fait un peu ce qu'on appelle de benchmarking, comme ça se passe, en Europe. Donc, nous avons un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, des réalités ou des besoins socio-économiques, donc qui diffèrent par rapport, aux autres localités. Ce qu'il faut faire, à mon point de vue, dans un premier temps, c'est aujourd'hui d'évaluer et d'auditer l'ensemble des programmes et des projets qui étaient destinés aux jeunes.
Il y a pas mal faire d'abord un audit de tous les programmes qui ont été financés en faveur des jeunes.
C'est ça. Il faut aujourd'hui auditer tous les projets qui ont été financés pour les jeunes. Nous avons aujourd'hui l'ANPEJ, nous avons l'ABER, nous avons le FONJIP, nous avons le PERETEJ, entre autres. Et il n'y a pas cette sorte d'articulation entre les acteurs ou une bonne communication. Et là, des fois, on oublie même une couche de la jeunesse et pour même les toucher. Donc, moi, je pense, dans un premier temps, avant de pouvoir investir cela, il faut qu'on puisse maintenant mieux auditer et évaluer ces programmes pour voir les manquements et les écarts afin d'apporter ce qu'on appelle.
De réajuster les prochains programmes.
De réajuster un peu. Oui, pour essayer de voir. Parce que nous avons cette panoplie d'agents et de programmes qui interviennent donc
sur la. Merci beaucoup. Merci.
Aujourd'hui, nous ne voyons pas un peu ce réel impact envers la couche.
Merci, M. Ndiaye. M. Oumar Sy, vous êtes là? Allô?
Oui,
on va parler tout à l'heure avec M. Dembélé. Quel est l'état de l'économie sénégalaise, des finances publiques aujourd'hui pour voir si le président Macky Sall peut effectivement tenir ses promesses? Mais je voudrais que vous commentiez un peu ce que vient de dire représentant le directeur exécutif de la jeunesse, M. Ndiaye, qui estime qu'avant de parler de futurs programmes, il faut déjà faire une évaluation, un audit de ce qui a été fait jusque-là.
Oui, M. Ndiaye a parfaitement raison. Il a bien posé le débat aussi. Parce qu'aujourd'hui, relancer un programme de financement pour les jeunes, alors que jusqu'à présent, on n'a pas audité les milliards qui ont été donnés à la Terre, aux milliards qui ont été donnés à FONJIP, à l'ANPEJ, toutes ces structures qui ont pour mission d'accompagner les jeunes, et qui n'ont pas réussi à le faire. Donc, il faut d'abord s'interroger, ces milliards sont allés où? Deuxièmement, le problème, il a parlé de budget unique, mais le problème, c'est d'abord régler à la base l'éducation et la formation des jeunes. Aujourd'hui, les universités sont complètement bouchées par des étudiants qui n'ont aucune vision de leur avenir. Ils vont sortir sur le marché et ça va encore poser plus de problèmes. Et dégainer des milliards de droite à gauche sans qu'il y ait une structuration réelle autour des problèmes, parce que le secteur privé, comme il le dit, ne joue pas son rôle au Sénégal. L'État ne peut pas s'autoprogrammer aujourd'hui pourvoyeur d'emplois et dire qu'ils vont recruter les jeunes en masse. C'est pas possible. L'État n'a pas cette vocation-là. Donc, il faut aller dans le sens d'accompagner, de structurer, de créer de nouveaux champions sénégalais, parce qu'il y a aujourd'hui des champions qui sont complètement obsolètes, que vous prenez le CNP, le Conseil national du patronat, que vous le prenez la CNES, que vous prenez toutes ces structures de patronat, ils sont complètement en déphasage avec l'économie dont le Sénégal a besoin. Nous avons une économie qui tend vers le pétrole et le gaz, nous avons une économie qui commence à avoir des revenus dans le secteur minier, et nous avons une économie aussi qui tend vers une gouvernance numérique.
Et il y a des emplois dans ce secteur, mais pas de compétences.
Oui, non, mais il y a des emplois dans ce secteur, mais il n'y a pas assez de compétences. Aujourd'hui, vous prenez le secteur pétrolier et gazier, on parle du contenu local, il y a tout un débat là-dessus, mais si vous le prenez, même pour la partie complètement réservée aux Sénégalais, aux patronats sénégalais, ils sont de loin capables de subvenir à ces besoins-là. Ils ne sont ni préparés, ni financièrement avec ses capacités pour gérer encore cette partie du contenu local, mais ils ne sont pas même dans la préparation de ces jeunes et de ces milliers de personnes qui vont être dans ce secteur-là. Et parallèlement, il y aura des impacts indirects pour d'autres secteurs comme l'agriculture, et nous n'avons pas encore une réflexion dans le long terme de comment asseoir une économie durable. On pense qu'il faut immédiatement, tout de suite, créer des emplois. C'est la même chose qu'on a fait avec les ASP. On a donné 50 000 à des jeunes en leur disant ne syndiquez pas, vous n'avez pas d'avenir. Mais la réponse à ça, c'est qu'une partie de ces gens-là aujourd'hui cherchent des revenus d'une manière ou d'une autre, de manière légale ou illégale.
Merci.
Donc l'État doit, le président doit prendre le temps de bien réfléchir, de mûrir, d'impliquer le secteur privé sénégalais, mais de parler aussi avec les économistes pour voir quel est le format économique pour le Sénégal et quel est le modèle d'étudiants qu'on veut sortir pour qu'ils soient compétents,
d'accord,
y compris dans le secteur de la formation professionnelle.
Nécessité de poser le bon diagnostic avant d'aller aux solutions et aux programmes. Monsieur Dembélé, je voudrais juste que vous disiez un mot sur cet aspect relevé par les précédents intervenants. Quand les uns et les autres parlent de l'audit des financements qui ont déjà été accordés aux organismes engagés dans l'emploi des jeunes ou dans l'accompagnement des jeunes, on a l'impression qu'il y a des soupçons de mauvaise gestion, qu'il y aurait des problèmes de bonne gouvernance.
Mais ils ont parfaitement raison, je suis en phase avec eux. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas une stratégie cohérente pour l'emploi de façon générale et pour l'emploi des jeunes en particulier. Parce que ce n'est pas normal qu'on continue de créer des structures et que chaque fois, on constate des échecs répétés. Mais il faut évaluer. Je crois que la moindre des choses, c'est d'évaluer ce qui a été fait, voir là où le bas blesse, ce qu'il faut rectifier. Mais c'est toujours dans l'urgence, on crée une structure, on voit qu'elle ne marche pas, ou alors on ne fait pas de bilan, on crée une autre structure en pensant qu'elle... qui réglera le problème, mais c'est surtout c'est dû en fait à la politisation de cette problématique de l'emploi des jeunes. Parce que le plus souvent, j'espère peut-être que ça va changer cette fois-ci, le plus souvent on confie ces structures à des membres du parti présidentiel. Alors ce qu'on leur demande, peut-être que ce n'est pas de faire des résultats, mais c'est de continuer à être loyal vis-à-vis du président, vis-à-vis du ministre de tutelle, etc. Et donc, ils savent que, de toute façon, aussi longtemps qu'ils resteront loyaux vis-à-vis du président, ils seront impunis. Il n'y aura pas on ne leur demandera pas de résultats concrets. Et c'est ça le problème. Est-ce que ça va changer? Peut-être. Il y aura un conseil présidentiel proposé par le président le 22 de ce mois. Et peut-être qu'à ce conseil présidentiel, il y aura des inflexions dans la politique de l'emploi des jeunes et de la politique d'emploi de façon générale dans ce pays.
Autrement, Monsieur Dembélé, parlons à présent de l'état même des finances du Sénégal. Macky Sall annonce, j'ai décidé d'une orientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards de francs CFA au moins sur 3 ans, dont 150 milliards pour cette année. Est-ce que l'état des finances publiques du Sénégal aujourd'hui lui permet de pouvoir financer tous ces projets et de sortir toute cette enveloppe?
Disons que le budget qui avait été arrêté était de 4 000 et quelques milliards, donc ça, les 450 milliards, c'est environ 10% de ce budget de l'année de 2020-2021. Alors, il est vrai que la pandémie a eu un grand impact, surtout négatif, pour ce qui concerne surtout la mobilisation des ressources par la douane sénégalaise, parce que comme vous le savez, dans beaucoup de nos pays, les finances publiques, surtout le budget dépend beaucoup des recettes douanières. Et donc, avec la fermeture des frontières et tout ça, il est vrai que c'est sûr qu'il y a eu des moins-values. Maintenant, le président dit qu'il va faire des réaffectations. Alors, tout le monde se demande quels sont les secteurs qui seront pénalisés. D'abord, ici, il y a un débat. Et je pense que M. Si et M. Ndiaye seront d'accord avec moi. Il y a des institutions budgétivores qui ne servent absolument à rien, sinon à caser un personnel politique, tout simplement, qui est derrière le président. Qui
soutient beaucoup d'agences nationales, mais en même temps, juste préciser aussi que certaines ont été créées sous Abdoulaye Wade et pas Macky Sall. Ça peut être aussi une excuse avancée par le pouvoir.
Oui, mais certaines ont été créées par Abdoulaye Wade, on est d'accord. Mais si Macky Sall dit qu'il vient, il y a une expérience qui est faite, et il dit qu'il veut changer, il veut une nouvelle gouvernance du Sénégal. C'est ça qu'il a dit, sobre, vertueuse, etc. Et on sent qu'il y a des institutions qui ne servent pas à grand-chose, mais qui sont dépensières. C'est le cas, par exemple, du Conseil économique, social et environnemental. Et entre parenthèses, celui qui est à sa tête aujourd'hui, dans son programme de 2019, il envisageait la suppression de cette institution, c'est pour vous dire.
Idrissa Seck.
Oui,
voilà. Excusez-moi, je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, en quelque sorte, mais en même temps aussi, Macky Sall a décidé de dissoudre le Sénat pour faire des économies. Alors, autrement, ma question était de savoir, compte tenu de l'état des caisses publiques aujourd'hui, est-ce que le président peut objectivement, et dans l'immédiat, comme il a promis, mettre à disposition cette enveloppe pour permettre le recrutement d'autant de jeunes comme il a annoncé. Vous répondez quoi?
Bon, écoutez, c'est sûr qu'il y aura, il va mobiliser une partie de cet argent à l'interne, mais ce qui est évident, c'est qu'il va être obligé d'emprunter de l'argent à ses bailleurs bilatéraux et multilatéraux.
Et donc, il y aura forcément endettement.
Ah oui, bien sûr. Il y aura forcément endettement, parce que de toute façon, même les affectations budgétaires, certains des secteurs qui seront pénalisés, il ne va pas tout simplement les fermer. Peut-être que certaines de leurs activités seront gelées, mais ces secteurs vont continuer à fonctionner. Donc, les 450 milliards, certes, une partie viendra nécessairement d'emplois extérieurs, à la fois sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral.
Merci. Merci, Monsieur Dembélé. On se retrouve dans un instant pour continuer ce débat sur les promesses de Macky Sall de recruter 65 000 jeunes Sénégalais d'ici le mois prochain.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons du Sénégal avec son président Macky Sall qui a promis à la veille de la fête nationale samedi dernier de nouvelles réponses à la jeunesse. Parmi ces réponses, le recrutement d'ici le mois prochain de 65 000 jeunes Sénégalais. Et nous en parlons ce soir avec Farah Ndiaye, directeur exécutif de Jeunesse Espoir au Sénégal, Cheikh Oumar Sy, président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique OCDEA, et Demba Moussa Dembélé, économiste et chercheur. Monsieur Sy, on a entendu tout à l'heure votre panéliste, Monsieur Dembélé, dire que compte tenu de l'état des caisses publiques du Sénégal, le président va devoir endetter le pays pour tenir cette promesse de consacrer 450 milliards de francs CFA au moins sur 3 ans à la lutte contre le chômage des jeunes et l'insertion socio-économique. Est-ce que vous êtes inquiet sur ce point, d'autant plus que le rapport économique et financier 2021 du ministère des Finances et du Budget établit la dette publique, établit que la dette publique est projetée à 9 176 milliards de francs CFA en 2020 en raison de l'épidémie de la pandémie de Covid-19, une progression de 11,5%. Est-ce que vous êtes inquiet concernant cet aspect de l'endettement? Allô? Monsieur Sy? Alors, on va peut-être retourner à Monsieur Dembélé. Monsieur Dembélé, vous êtes là? Allô, Monsieur Dembélé? Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, je vous entends très bien.
Oui, Monsieur Dembélé, on n'arrive pas à entendre Monsieur Sy, et pour l'instant, on a perdu Monsieur Ndiaye aussi. Alors, dites-moi, cet endettement, est-ce que ça va créer un autre problème, alors que je mentionnais déjà cette inquiétude qu'on observe avec le ministère des Finances, qui affirme que, par rapport à l'année 2019, la dette publique du Sénégal pour 2020 est estimée à peu près à 9 176 milliards de francs CFA.
Oui, non, vous savez, la question de la dette a fait l'objet de débats, de controverses, mais la réalité est qu'aujourd'hui, avec la pandémie, au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les critères qui avaient été mis en place pour contrôler l'endettement, le déficit budgétaire, tous ces critères aujourd'hui ont été élevés, et même au niveau de la CEDEAO. Donc tous les pays, aujourd'hui, sont plus ou moins libres de s'endetter pourvu que, bon, ils prennent des mesures peut-être pour pouvoir les payer un jour. Mais il y a plus de niveaux d'endettement, limite, comme on le disait, 70% du PIB pour le mois. Tous ces critères ont été plus ou moins balayés par la pandémie. Mais c'est que même si l'année dernière, quand le président proposait les 1 000 milliards de francs CFA pour sa force Covid-19 pour assister les populations et relancer certains secteurs, mais une partie de cet argent devait venir de l'extérieur. Il comptait sur le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne et les autres bailleurs. Et donc, dans ce cas-ci, ça va être pareil, parce que de toute façon, déjà la pandémie a mis à mal pas mal de secteurs du pays. La première et la deuxième vague, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois. La pauvreté a gagné pas mal de familles. Et donc, ce ne sont pas seulement ces 450 milliards destiné à l'emploi des jeunes, il y a d'autres milliards ou des dizaines de milliards qu'il faut mobiliser pour d'autres secteurs, pour d'autres segments de la société.
Merci.
Et compte tenu des moins-values au niveau des recettes douanières, le président sera nécessairement
obligé de s'endetter.
Sera obligé de s'endetter.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Oumar, si nous l'avons retrouvé, vous m'entendez, Monsieur Sy?
Oui, je vous entends.
Oui, est-ce que cet endettement dont s'inquiète M. Dembélé n'est pas nécessaire aujourd'hui, compte tenu quand même de cette vague de protestations qu'on a vue, et aussi, est-ce que cet endettement pour le recrutement des jeunes n'est pas, je veux dire, un endettement utile, puisque demain, si les jeunes travaillent, est-ce qu'ils ne vont pas créer des revenus pour le pays?
Oui, mais ça dépend de quel endettement vous faites et comment vous structurez cet endettement-là avec les jeunes. Si c'est un endettement avec des fonds revolving qui ont fait échouer beaucoup de projets de projets sociaux, de projets de l'État. On l'a vu qu'il y a eu beaucoup de financements revolving qui n'ont jamais été, que l'État n'a jamais pu recouvrir. Ça va juste creuser le fossé de l'endettement. Aujourd'hui, vous le prenez aussi, le Sénégal a engagé de grands projets tels que le DER, le BRT, et ça aussi, il faudra payer cette dette-là. Donc, avant de se lancer pour dire c'est un endettement utile ou inutile, il faudra d'abord que les gens s'asseyent et qu'ils sachent exactement quel type d'économie construire dans le court, moyen et long terme pour que ces jeunes-là puissent trouver de l'emploi.
Mais pour vous, alors, si le président ne doit pas s'endetter pour créer, pour recruter les jeunes comme il l'a promis, sur quoi, où est-ce qu'il doit trouver de l'argent justement pour répondre à cette demande fortement exprimée par la jeunesse lors des dernières manifestations?
Mais la possibilité existe. Aujourd'hui, il y a des agences qui n'ont aucune utilité pour l'État. Vous prenez le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est budgétivore, n'a aucune utilité. Aujourd'hui, il a augmenté presque 2 milliards sur le budget du Conseil économique et social et environnemental. Ça n'a pas d'utilité. Je pense qu'il doit non seulement réduire autant d'agences de l'État, réduire le train de vie de l'État, il pourra faire une économie entre 150 et 200 milliards l'an. Ça, il a commencé déjà à travailler sur les véhicules de l'État qu'il est en train de réduire et aujourd'hui, ils ont une dotation pour eux-mêmes qu'ils puissent s'équiper. Mais ce qui coûte cher pour les Sénégalais surtout, c'est l'État. C'est avant tout le train de vie de l'État qui coûte excessivement cher. S'il décide de trouver des fonds, s'il creuse dans ces agences-là, s'il creuse dans le fonctionnement de l'État, s'il fait les coupes nécessaires auprès des ministères pour les réaménager et les restructurer, et les rendre plus intelligents par rapport à l'économie dont on est en train de construire, il pourra faire facilement une économie de 300, 400, 500 milliards. En plus, il ne doit plus s'engager sur des investissements de prestige. Le stade qu'il est en train de construire pour les Jeux Olympiques au niveau de Diaminiadio, aujourd'hui, on entend que les Jeux Olympiques vont se tenir après 2024. Donc, il n'y a plus d'urgence. L'aréna qui a été construite n'est pas fonctionnelle à plus de
20%. Les grands Donc, championnats de lutte Les grands combats de lutte.
Oui, c'est un autre stade. Mais aujourd'hui, d'autres stades qui étaient là, qui devaient être fonctionnels, ne sont plus à la norme. Merci. Donc, il faut que le président de la République réponde aux besoins des Sénégalais, non pas par l'émotion, mais par une réflexion qui soit posée avec les acteurs et d'aller dans le sens d'identifier les besoins des jeunes dans les secteurs qui vont être immédiatement porteurs pour le pays. Et l'un des secteurs, et on le dira toujours, l'un des secteurs les plus importants pour le Sénégal aujourd'hui, c'est le secteur de l'agriculture. Vous le prendrez la pêche et vous prendrez l'élevage. C'est des secteurs qui sont vraiment...
Merci. Pour qu'on ne voit plus ces jeunes mourir en mer pour se rendre en Europe. En 30 secondes, M. Dembélé, donc vous, est-ce que vous pensez aussi qu'avec une bonne gouvernance, une meilleure gouvernance, Macky Sall peut réussir à tenir ses promesses?
Non, je suis d'accord avec M. Sy, hein. C'est un ancien député qui connaît très bien la situation, avec qui d'ailleurs j'ai travaillé un moment sur les APE. Donc je suis entièrement d'accord avec lui. Mais maintenant, est-ce que le président aura le courage de prendre ses décisions, c'est-à-dire de fermer ses agences, de réduire le train de vie de l'État? Ça, c'est un débat permanent. L'État doit réduire son train de vie.
Merci.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et s'il le faisait, au moins la moitié, ou peut-être même plus de la moitié de ce budget pour les jeunes,
il pourrait les dégager, le dégager. Merci beaucoup, voilà. Demba Moussa Dembélé, économiste, chercheur et président de ARCAD, Africain de Recherche et de Coopération pour l'Appui au Développement Endogène. Merci à Cheikh Oumar Sy, président de l'Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Économique en Afrique, OCDEA, et à Farah Ndiaye, directeur exécutif de Jeunesse Espoir au Sénégal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour parler du Tchad.